Cours de philosophie de la nature par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 26 novembre 1992.
Pourrait-on traduire la définition aristotélicienne de la nature en disant que la nature est principe immanent de détermination et d'indétermination dans ce qui est uni? Pourquoi, dans Aristote, prend-il le point de vue du mouvement et du repos? N'est-ce pas l'unité de la détermination et de l'indétermination? Dans un sujet en mouvement qui permet d'induire la nature. Oui, c'est évident que la première induction, point de vue spéculatif, point de vue connaissance philosophique, c'est la nature. La nature forme, la nature matière. C'est la première induction. Alors, il faut bien comprendre ce qu'est cette induction. Alors, petite précision, hein. On ne définit pas la nature. Un principe ne se définit pas. Il se saisit. Je comprends très bien comment on explicite, mais on ne définit pas. Parce qu'il n'y a pas un genre différent spécifique. C'est au-dessus. Alors là, c'est toujours ce principe très important de bien comprendre le double niveau de connaissance. Ça, c'est un peu critique, mais c'est quand même très important à saisir. La connaissance par genre est différente spécifique. Animal, raisonnable. Deux modalités. créatif, genre et différence spécifique animal, raisonnable. Je ne suis pas encore en philosophie. C'est pré-philosophique. C'est logique. Et au Moyen-Âge, on commençait par la logique. Justement à cause de ça. C'est le langage courant, c'est une analyse du langage. Et de la connaissance, hein, correspondant à ce langage. On définit comme ça. Il y a un autre type de connaissance. Donc, A, si vous voulez. B. Un autre type de connaissance qui est proprement philosophique. Où je saisis les principes propres grâce à l'induction. C'est l'induction qui me conduit à saisir la nature. Alors, faites-vous ce petit tableau avec les différentes parties de la philosophie. Essayez de comprendre tous les principes propres que le philosophe se sert. Il y a la nature, il y a, au point de vue philosophie du vivant, l'âme. L'âme est pour le vivant l'analogue de la nature-forme. Et le corps. Le corps est pour le vivant l'analogue de la nature matière. Ça nous aide à comprendre ça. Puis vous avez ensuite substance et accident. Être en acte. Et les principes propres. Puis quel est le principe propre en philosophie de l'art? L'eidos, l'idée qui commande toute mon activité artistique. Quand je n'ai pas d'idée, je copie. Je copie. J'ai un modèle. J'ai une idée extrinsèque à moi. Alors j'ai besoin d'un modèle que je copie. Tandis que quand je porte ce modèle en moi, j'ai une idée. J'ai un petit projet. J'ai quelque chose à faire. Et ça commande tout. Donc, ça, c'est le principe propre de la philosophie de l'art. Quel est le principe propre de la philosophie éthique ? La fin. Mon intention de vie qui se porte sur une fin, un bien fin, qui polarise toutes mes activités, qui suscite en moi un amour. Quel principe propre en philosophie politique, le bien commun. Oui, c'est bon de saisir tous les principes propres de toute la philosophie. Ils ne sont pas très nombreux, hein, parce qu'il faut les saisir vraiment, hein. Pas seulement les répéter. Et pour les saisir vraiment, il faut tout le temps venir à l'induction. Puisque, voyez, le genre, je le saisis directement par l'expérience. Évidemment, ça implique une certaine induction aussi. Puisque je passe de tel animal à animal. L'aspect formel, c'est quantitatif. Je reste au niveau de la quantité. Je définis. Alors là, c'est les définitions. La saisie des principes propres, c'est déjà autre chose. Et c'est toujours saisi d'une manière analogique. Vous voyez, je saisis la nature forme, la nature matière. Je saisis l'âme et le corps. Tout ça est analogique. Je saisis la substance et les accidents. Trois niveaux. Au niveau devenir, au niveau vivant, au niveau de l'être. Ce qui est premier selon la forme. Bon, alors, je reviens. Donc.
La différence spécifique, on ne la saisit pas à partir de l'expérience, on la saisit après avoir induit l'âme.
Non. Bah écoutez, raisonnable. Est-ce que vous saisissez ça par l'expérience? Est-ce que vous avez fait un acte raisonnable dans votre vie? Oui, puisque vous êtes à Saint-Jean. C'est peut-être irraisonnable. Normalement, c'est raisonnable. Un acte prudentiel. Raisonnable. On a la saisir ce premier niveau de ma connaissance, parce que c'est la base. Hein. Je ne peux pas quitter et abandonner la connaissance par genre et différence spécifique. Je ne peux pas quitter les prédicaments et les prédicables. C'est la structure première de ma vie intellectuelle. Mais je la dépasse. C'est l'Ancien Testament, ça. Oui. C'est préambule. Et puis je dépasse. Et j'ai les principes propres. Et je saisis la nature. Oui. Quelle est la définition philosophique de l'homme? Âme et corps. Oui. L'âme comme principe spirituel de vie. Et de vie spirituelle. Et la propriété, c'est que vous avez une main. Alors qu'aucun parmi les animaux qui ne sont pas raisonnables. Donc la main est liée à la raison. Le sourire, propriété, oui. Alors, vous avez donc cette première connaissance générique, universelle, univoque. Qui est université du reste pas absolu puisqu'il y a cinq prédicables. Ça, c'est une structure fondamentale de ma vie intellectuelle. Je pense par genre et différence spécifique. Je pense par accident et propriété. Tout le temps. Vous voyez ? Puis, bah, grâce à la philosophie, où il y a le jugement d'existence, là, je suis au niveau quantitatif. Donc, le jugement d'existence n'est pas en acte. Je suis au-delà. Tandis que là, le jugement d'existence est présent. Dès que je saisis un principe. Et je saisis un autre niveau, qui est un niveau plus profond, plus radical, où je saisis ce qu'il y a de premier dans l'ordre du devenir. De ce qui est mu. Oui. Alors, je dirais à ce moment-là que la nature est principe immanent de ce qui est mu. C'est la première chose que je saisis. Je saisis la nature comme principe immanent du devenir. Puisque mon expérience première de la réalité physique, elle est mue. C'est l'expérience première. Génétiquement première. Cette nature est mue dans une détermination. Et parce qu'elle est mue dans une détermination, je distingue nature, forme, nature, matière. C'est le mouvement qui me fait poser la matière. Et c'est la détermination du mouvement qui me fait poser la forme. Donc ce que je saisis en premier, c'est le mouvement et la nature, matière, et en même temps nature-forme. C'est pour ça que je dirais que c'est vraiment ce qui est mu comme expérience première, ce qui est mu naturellement, pas d'une façon violente. La réalité, toute expérience du monde physique est toujours dans le mouvement. Toujours. Mais ce mouvement implique une détermination. Mais d'abord, je pose la nature principe immanent de ce qui est mu. Et je distingue cela, alors voyez bien, hein, je distingue ça à partir de l'œuvre d'art. Parce que ce qui est premier génétiquement dans ma connaissance, c'est la connaissance artistique. Et c'est pour ça que le fond sur lequel se réalise ma connaissance de la philosophie de la nature, c'est toujours l'activité artistique. Pour moi, la exactement comme quand vous montez l'escalier. Quand ça va bien, vous montez l'escalier. C'est un mouvement vital. C'est vous. Ça vous gêne pas de monter. Mais vous pouvez rater et dégringoler. Ce n'est plus un mouvement vital, c'est un mouvement naturel. C'est le poids de la machine qui l'emporte. Vous voyez, il faut partir, il faut redécouvrir. Au plan philosophique, c'est ça qu'il faut. C'est redécouvrir les expériences très très simples dont habituellement on ne pense absolument pas. Parce qu'on est dans une culture très artificielle. Quand je dis artificielle, c'est-à-dire scientifique et technique. Et c'est ça dont on vit habituellement. Alors le philosophe veut redécouvrir ce que c'est que l'homme. L'homme, il n'est pas premièrement quelque chose d'artificiel. Je sais bien qu'on voudrait construire un homme éternel. Vous savez bien ce qu'on dit. On peut tout reconstruire dans l'homme, tout. Alors on rêve, puisqu'on peut reconstruire un bras artificiel, celui-là ne va pas corrompre. Puisque je peux reconstruire un bras artificiel, une jambe artificielle, un cœur. Donc je peux tout reconstruire. Hein, hein. Vous soufflez dedans après. Pour qui est là, hein. premier. Oui, le premier amour, il est naïf. Oui, il faut croire au Père Noël pour aimer. Dans un monde où il n'y a plus d'amour, dans un monde où il n'y a plus de fidélité. C'est revenir à ce qu'il y a de premier. Le philosophe découvre et dévoile ce qu'il y a de premier. Il ne fait pas autre chose que ça. À ce point-là, c'est une simplicité merveilleuse. Mais c'est pas commode, parce que ce qui est premier est souvent très très caché dans un monde d'aujourd'hui. Alors, vous voyez, qu'est-ce que c'est que la nature? C'est quand vous voyez un mouvement qui n'est plus artificiel. Ça dégringole. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça dégringole? Et pourquoi quand vous voyez le feu, ça monte? Pas que c'est cocasse. Il y en a un qui monte et l'autre qui descend. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et alors on voit très bien l'origine du feu, le mythe de Prométhée. Il y a quelque chose de divin dans le feu, parce que ça monte. Normalement, ce qui monte, c'est divin. Ce qui descend, c'est l'enfer. C'est dans le gros mythe primitif. Le feu. Alors, mythe de Prométhée, on a volé au dieu le feu. Et grâce à ce vol, parce que le feu, c'est quelque chose de divin dans notre monde physique, hein, selon des mentalités très très simples et religieuses, il y a quelque chose de divin dans le feu. Et on trouve ça dans la liturgie, hein. Dans la nuit de Pâques, le feu, toute la liturgie nouvelle commence par le feu. Alors évidemment, nous, on est obligés de prendre quelque chose d'artificiel pour faire le feu. Hélas, et on sent bien que c'est artificiel. Prenez une allumette et vous allumez. Il y a du papier, oui. Mais normalement, le feu devrait jaillir. Je vous avais dit ce scout. Face à Kilari Gaudi, qui lui dit, vite, faites le feu, vous êtes toujours premier. Alors il demande un feu parfait. Une demi-heure après avoir donné à tout le monde sa charge, il revient vers ce scout idéal. Il le voit avec deux silex. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu m'as dit un feu numéro un. Faut le prendre. Il faut le prendre à l'origine. Vous voyez ça? Si la liturgie était sérieuse, on verrait tout le monde avec deux silex. Pour attendre le jaillissement du feu. Vous voyez, c'est au fond ça, le jaillissement du feu. Comment ça se fait que le feu jaillit de deux silex? Comment ça se fait? C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, ça. Vous voyez, c'est redécouvrir la nature dans ce qu'elle a de tout à fait premier. La nature usée par l'eau. On voit le grec, hein, ce pays déchiqueté, la côte sauvage pour un breton, l'océan qu'est-ce que ça représente, ça? Ça représente quelque chose. Ah, la nature. Alors on met le mot nature. C'est-à-dire quelque chose de primitif, quelque chose de premier, qui n'est pas fait par l'homme. Devant lequel l'homme est obligé de reconnaître qu'il y a quelque chose qui n'est pas de lui. Il est obligé de se soumettre à la nature. Il ne fait pas n'importe quoi avec la nature. Tandis que l'idéal de la technique, c'est de faire n'importe quoi avec n'importe quoi. Alors une fois qu'on est là, oh, c'est parfait. C'est le règne de la logique. N'importe quoi avec n'importe quoi. Alors voyez, c'est ça qu'il faut redécouvrir. Je vous dis l'exemple de Valérie, monsieur Test, devant le caillou en face de la mer. Se redécouvrir dans le désert une pierre qui semble taillée, on ne sait pas si elle est taillée ou pas taillée. réfléchis là-dessus. Tout simplement. C'est ce qu'il y a de tout à fait premier. Qu'est-ce qui est premier? C'est ces réalités qui ne sont pas faites par l'homme. Et comment cette réalité qui n'est pas faite par l'homme se manifeste à nous? Elle se manifeste à nous. L'expérience du mouvement, ce qui est mu. Ce qui est mu est relatif, parce qu'il est mu. Mais il est mu naturellement, et non pas d'une manière artificielle. Il est mu par lui-même. Donc principe immanent, ça veut dire par soi. C'est lui qui est mu. Et comment se fait-il qu'il est mu? Comment se fait-il que ça dégringole? C'est-à-dire l'attraction de la Terre, un grand mot, ben, ça n'explique rien du tout, hein. Ça dégringole. Pourquoi quand vous montez l'escalier et que vous attrapez tout d'un coup une syncope, vous dégringolez? Vous devriez rester là comme une statue. Non, pesanteur. Mais alors, le philosophe réfléchit sur ces choses tout à fait premières. La nature, c'est le principe premier de notre monde physique. Et notre monde physique, il est présent dans notre corps. Et c'est pour ça que le philosophe ne peut pas abandonner la nature au physicien. Il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que le corps dépend de la nature. Et que le corps est substantiellement l'homme. Et que le philosophe s'intéresse à l'homme. Mais il s'intéresse au corps comme partie de l'univers. Il y a quelque chose de naturel dans le corps. C'est pas l'homme qui l'a fabriqué. Autre chose est une dent naturelle. Autre chose, une dent plombée. Ou une couronne d'or. C'est pas la même chose. On voit ça très bien, mais le philosophe s'intéresse à ça. Qu'est-ce que ça représente, ça? Ars adjuvans naturam. L'art qui vient aider la nature. La médecine. Le dentiste. Donc, voyez alors, qu'est-ce que c'est que la nature? La nature, premièrement, l'admiration de l'homme vis-à-vis d'un mouvement naturel. Qui n'est pas un mouvement artistique. Première chose, je fais le discernement entre ce qui est l'œuvre d'art et puis l'au-delà de l'œuvre d'art. Une réalité naturelle. Cette réalité naturelle est toujours en mouvement. Mais un mouvement déterminé. Donc, il y a quelque chose de radical au-delà de la détermination qui est la nature matière. Et cette nature matière, cependant, est mue, intérieure, par elle-même. Et elle est mue selon un certain ordre déterminé. Donc, j'ai nature, principe immanent du mouvement, nature, indétermination radicale, nature, détermination, nature, fin. Dernier moment. Tout est autour de ce phusis, ce mot phusis, nature. Alors, il faut redécouvrir le sens premier de nature.
Est-ce que j'ai toujours besoin pour induire la nature de comparer avec la... Est-ce qu'il n'y aurait pas une induction à l'intérieur même de la nature sans faire...
Mais je crois que si j'étais très intelligent, je n'aurais pas besoin de comparer avec la Fusis, avec l'Arvda. Mais de fait, étant donné mon conditionnement humain, la comparaison avec l'œuvre d'art est quasi nécessaire pour découvrir quelque chose de premier. Mais je le fais spontanément quand je suis devant, voyez, devant l'océan. Je n'ai pas besoin du bateau pour comprendre l'océan. Mais quand il y a un petit bateau sur l'océan, je comprends mieux l'océan. Parce que ça flotte. Puis ça bouge dans un sens différent. C'est pas le même sens. sens. Alors le petit bateau m'aide à comprendre l'océan. Ça c'est sûr. C'est saint Augustin, vous savez, pour comprendre l'océan, le gosse qui prend une cuillère, il fait une goutte d'eau, il la met dans le sable, il va vider la mer dans son sable. Il n'y arrive pas. Donc il comprend qu'il y a là un abîme. Et quand il prend la petite cuillère, c'est une œuvre d'art. Mettre l'eau à notre endroit, c'est une œuvre d'art. Mouvement artistique. Le mouvement artistique lui fait comprendre quelque chose de plus fondamental, l'abîme. Vous voyez ? C'est qu'au fond, la connaissance artistique, elle colle à notre peau. On est tout le temps en face d'une œuvre d'art. Et il faut être attentif pour découvrir au-delà de l'œuvre d'art. Découvrir ce qu'il y a de premier. Pour nous, dans un monde aussi civilisé que le nôtre, c'est-à-dire aussi artificiel que le nôtre, parce que notre civilisation risque de tomber dans l'artificiel. Vous voyez, il y a un moment critique dans la civilisation humaine où le fondement risque de trembler. Tremblement apocalyptique. Parce que l'édifice est tellement élevé. Et je crois qu'on est à ce moment critique. Et c'est pour ça que c'est si intéressant de voir ça. Hein. Être spectateur d'un mouvement critique, c'est ravissant. Le tout, c'est pas d'y être dedans, n'est-ce pas? Mais c'est de le regarder. C'est merveilleux de voir ça. On est en face d'un monde tellement cultivé, tellement civilisé, que on ne sait pas si ce qu'on fait maintenant, c'est du pur artificiel. Oui, le moment de la désagrégation de l'atome. Est-ce que c'est une... Moi, je me pose pas cette question. C'est les questions qu'on doit se poser au point de vue philosophique, ça. L'homme coopère avec la nature, mais l'homme peut détruire la nature. À quel moment l'homme détruit-il la nature ? Et c'est très important ce moment. Hein. Est-ce que je coopère à la destruction de la nature ou est-ce que je coopère à l'édification de la nature ? On se pose la question au point de vue apostolique. Est-ce que j'édifie l'Église ou est-ce que je détruis l'Église ? Si je ne cherche pas la vérité, je détruis. Si je cherche la vérité, j'édifie. Et alors, c'est le fait de la coopération et le fait de la destruction, la désagrégation. Il y a un moment critique, ça j'en suis sûr qu'il y a un moment critique. C'est ce qu'on appelle la situation limite. Et il y a une situation limite entre le point de vue de l'art et de la nature. Et c'est pour ça que cet article que je vous citais, de ce philosophe romain, il y a déjà 15 ans de ça, qui dit actuellement on est en situation limite. Et ce qu'il veut dire, situation limite, c'est que le sol, la nature sur laquelle on construit n'est plus assez forte pour porter l'édifice. Vous savez bien le problème de l'architecte, quoi. Si vous construisez sur un sol mouvant, bon, vous pouvez construire une toute petite maisonnette, il n'y aura pas beaucoup de danger. Mais si vous augmentez un gratte-ciel, oulala, le petit mouvement de la terre, le gratte-ciel, répercussion énorme. Alors, si on construit de plus en plus un monde artificiel, le sol, dans la moindre petit changement, aura des répercussions énormes. Et au fond, c'est pour ça que c'est si important de dire qu'est-ce que c'est que la nature. Pour nous, là, nous la portons en nous, notre corps. Dans la mesure où notre corps est encore assez naturel, on n'a pas mis trop de pièces. essayer encore quelque chose. Toutes les autres sont plombées, elles sont artificielles, ça n'a pas d'importance. Mais alors, il y a un moment critique, hein, la dernière dent. Où la nature s'effondre. Oui, c'est ça que je voudrais que vous sentiez dans cette recherche de la philosophie de la nature. Saisir ce qu'il y a de fondamental. Cette nature. Alors vous la saisissez très simplement. La source, l'eau, le feu, l'océan. Parce que c'est là où vous saisissez de fait quelque chose qui résiste. Et vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette nature? Ben oui, c'est quelque chose de déterminé, c'est quelque chose qui se corrompt. Dans 20 ans que je repasserai là, ce ne sera plus la même chose du tout. Ce sera changé. L'érosion, le phénomène de l'érosion. Quand on vous dit que tel fleuve avant passait comme ça, puis maintenant il est tout petit comme ça, mais il y a les alluvions. Tout ça, c'est extraordinaire à voir et à saisir ces choses-là. On comprend très bien qu'il y a le problème philosophique de se dire qu'est-ce que c'est que la nature. Alors, principe immanent de ce qui est mu. Et le mouvement naturel provient d'un principe immanent, alors que le mouvement artificiel provient d'un principe extérieur. Vous voyez, l'art. Comprenez bien ce que je dis. Hein. L'art violente toujours un peu la nature. Violente. Violenter, c'est agir de l'extérieur. Dans un sens qui n'est pas naturel. Alors on violente. L'autorité ne violente jamais et le pouvoir violente. Parce que l'autorité va dans le sens de la finalité. Alors comme au fond en moi, autorité et pouvoir, c'est toujours très très lié. Hein. Et quand on dit qu'il faut exercer l'autorité à la manière de Saint-Joseph, c'est l'exercer sans pouvoir. Saint-Joseph était pauvre. Je prends ces exemples-là pour vous montrer que tout ça a des répercussions dans toute notre réalité. Vous voyez, et un des problèmes constants aujourd'hui qui touche au problème de la philosophie de la nature et de l'art, c'est la coopération et la destruction, la désagrégation. Donc, je dis que première induction à partir du mouvement. Je compare le mouvement artificiel et le mouvement naturel. Puis après, j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que ce mouvement naturel. Ce mouvement naturel fait que les réalités naturelles ont un mouvement. Elles changent tout le temps grâce à la matière, capacité de changement. Et il y a des déterminations, des qualités qui déterminent ce mouvement. Et ce mouvement est ordonné en fonction du tout. On s'aperçoit ça très fort aujourd'hui. Si on intervient trop, et on intervient beaucoup aujourd'hui, on a un pouvoir extraordinaire sur la nature. C'est les outils modernes, c'est fou, comparativement aux outils anciens. On intervient alors. Il y a un moment où on déséquilibre la nature. Ou un moment où le poids de l'artificiel l'emporte. Et si la nature pouvait crier, elle crierait. J'agonise. Avec un peu de romantisme, vous voyez ça. J'écoute la nature et elle agonise. La nuit, elle crie. Et vous entendez qu'elle agonise parce que le poids de l'artificiel est trop grand. Et le philosophe est là pour rappeler que l'homme doit respecter la nature. Il y a un respect de la nature. Mais pour ça, il faut savoir ce qu'elle est.
cours de philosophie de la nature par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 10 décembre 1992.
Maladie
voir toute la mythologie sur le feu. C'est très intéressant de voir la mythologie sur le feu et sur l'eau. Et sur le feu encore plus. Prométhée. Il faut lire Prométhée. Comment Prométhée vole le feu aux dieux. Le feu est comme un élément divin. Héraclite, c'est le premier philosophe du feu. C'est Héraclite. Héraclite distingue le feu visible, le feu invisible. C'est intéressant, du reste. Et le feu fait, c'est comme le lien entre ce qui est visible et ce qui est invisible. Parce que c'est l'élément le plus subtil qui donne la finalité à tous les éléments. On verra, et on verra à ce moment-là si on répond à toutes ces questions. La réalité naturelle tient son mouvement propre de sa nature. Oui, justement, le feu monte, l'eau tombe et la terre aussi. La réalité naturelle tient son mouvement propre de sa nature, principe immanent. Cependant, on dit qu'elle est mue par un autre. Tout ce qui est mu par un autre. Pouvez-vous expliciter cette cause extrinsèque? Est-elle principe de ce qui est mu? Alors, je vous ai dit, tout ce qui est mu par un autre est un axiome. Et non pas un principe propre. Ah, un axiome est de l'intelligibilité. Et qui montre que ce qui est mu, en tant qu'il est mu, est en puissance. Donc il est mu par un autre. Puisque ce qui est en puissance ne peut pas être en acte par lui-même. Donc il est mu par un autre qui est l'acte. C'est pas le même niveau d'intelligibilité, la nature et l'axiome, tout ce qui est mu par un autre. Et l'erreur scolastique décadente a été de confondre les deux. De confondre l'axiome et le principe propre de la nature. C'est très vrai que c'est très difficile pour nous de bien comprendre ce qu'est la nature. C'est très difficile. On va le voir avec les éléments. Une connaissance vulgaire de la nature qui n'est pas une connaissance philosophique, une connaissance descriptive de ce que c'est que la nature. Et tout poète a un sens de la nature. Même les psaumes, qui est une poésie liturgique, il y a un sens étonnant de la nature dans les psaumes, dans les étoiles, les astres, les baleines. Chanter Dieu et louer Dieu. Et la poésie de Saint François sur la nature. Petit Saint François sur le feu. Je sais pas si là. Est-ce qu'il y a un cantique de Saint François sur le feu? Saint Jean de la Croix vit flamme d'amour. Ah oui. Saint Jean de la Croix. Du feu. Alors, comprenez bien, on a l'expérience de ce qui est mu. J'ai l'expérience de l'eau mue. J'ai l'expérience de la terre mue. J'ai l'expérience du feu qui se meut. De n'importe quelle réalité qui est mue. Et la différence du mouvement naturel, du mouvement artificiel, c'est que ce qui est mu d'une manière immanente, par attraction. Elle est mue. Est-ce que c'est un mouvement artificiel ou est-ce que c'est un mouvement naturel? Et quand vous faites ça, l'horizontal, et quand vous jetez le ballon en l'air, mouvement artificiel, quand vous jetez la flèche, mouvement artificiel, la distinction entre le mouvement naturel et le mouvement artificiel, qui permet, puisque la philosophie de l'art est antérieure au point de vue connaissance philosophique, à la connaissance de la nature. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Parce qu'on a oublié ça, qu'on a reproché à Aristote de prendre des analogies de l'art pour expliquer ce que c'est que la nature. Et c'est oublier complètement que la connaissance philosophique est une connaissance analogique et que j'ai connaissance première des réalités humaines et c'est par les réalités humaines que je connais la nature. Connaissance spéculative. Donc, distinction du mouvement artificiel et du mouvement naturel. Et de voir que le mouvement naturel, c'est un mouvement immanent. C'est un mouvement immanent. Et le mouvement immanent, la feuille de papier qui descend. Et s'il y a un grand vent, elle subit le vent. C'est le mouvement de la marée. C'est ces mouvements-là que les philosophes ont réfléchi. Surtout quand on est un pays comme la Grèce. Et quand on voit ce que c'est que le mouvement de la mer au Cyclades. C'était effrayant. Quand on voit sur une petite barque au Cyclades, on comprend très bien ce que ça représente, ce mouvement naturel sur la mer. On doit lutter contre. De temps en temps, on n'est pas assez fort. On recule. On en reprend. Et c'est à partir de là, vous voyez, qu'on fait une distinction entre mouvement naturel et mouvement artificiel. Mouvement artificiel, il y a une cause extrinsèque. On est mu par un autre. Et à partir de là, on a de fait compris l'axiome. Tout ce qui est mu par un autre. Pourquoi? Parce que du fait qu'il est mu, il y a une passivité. Et du fait qu'il y a une passivité, il faut qu'il y ait un mouvement extrinsèque qui soit victorieux. On ne dit pas tout ce qui est mu naturellement est mu par un autre. Oh, pas du tout. Tout ce qui est mu par un autre. Ce qui montre très bien qu'on est au-delà de la distinction artificielle et naturelle. C'est simplement le devenir. Tout ce qui est mu en tant qu'il est mu par un autre. C'est pas du tout un principe propre de la philosophie. C'est un axiome. C'est l'axiome du devenir. C'est très important, ça. Chaque partie de la philosophie a un axiome qu'il faut détecter, qu'il faut expliciter. Et c'est la critique qui doit le montrer. On doit terminer la critique par montrer tous les axiomes. Alors, le mouvement naturel, au contraire, est un mouvement qui a un principe propre, immanent. Il est naturel à la terre de tomber. L'attraction du centre de la terre. Il est naturel au feu de monter et se meut. Deux mouvements que nous allons voir tout à l'heure. Donc, vous voyez, c'est pas contradictoire, c'est deux points différents. Pouvez-vous expliciter cette cause extrinsèque? La cause extrinsèque, quand il s'agit du mouvement naturel, je dis bien du mouvement naturel, c'est où la finalité? Le lieu. Le haut et le bas. L'attraction. Alors, il y a une attraction naturelle.
Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que le feu se meut?
Il se meut.
C'est pas le vivant qui se meut?
C'est quoi?
Le vivant se meut.
Ah oui, ah oui, mais il se meut parce qu'il y a un principe intrinsèque. Alors,
suis d'accord avec vous, c'est métaphorique d'une certaine manière, mais il se meut quand même. Le feu monte. Vous n'avez pas vu le feu, il monte. Hein? Naturellement.
Oui, monsieur.
Dites au feu d'aller, aller, brûle horizontalement. Hein? Tu ne dois pas dépasser l'allumette. Mais mon vieux, ne dépasse pas l'allumette. Et il ne vous obéira pas du tout.
Mais il me semblait qu'on distinguait la réalité naturelle non vivante.
Mais oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que le vivant se meut, parce qu'il est tout proche du feu. Le vivant, il a du feu. Oh, lui. Je prends la nature, je suis bien obligé de reconnaître que c'est mu. Et le feu pousse. Et qu'est-ce qu'il fait pousser? C'est lui-même. Donc il se meut. C'est pas le même gâteau. Vous voyez, il y a deux gâteaux différents. C'est ça qui est intéressant. Il y a un principe immanent, naturel. Et le propre du feu, le propre du feu, c'est ça qu'on cherche. Qu'est-ce que c'est que le feu? Ben oui, le feu, il s'élève. S'il s'élevait plus, il serait plus du feu. Essayez d'éteindre le feu. Un grand feu. Hein. C'est vigoureux. Hein. C'est très vigoureux, c'est pas le vivant. C'est très mystérieux. Il faut voir radicalement ce que c'est que le feu. Que voulez-vous dire? Moi, je peux pas dire que le feu, il est mu. Et il se meut quand même. Il s'élève en haut.
Il y a un lien très particulier avec l'air, non?
Quoi?
Il faut toujours de l'air.
Ben oui, de l'air, mais c'est quand même le feu qui monte, c'est pas l'air qui monte. L'air monte grâce au feu. Il entraîne. Tout ce qui brûlait, putain. La feuille de papier brûlée, ça vole. Et quand elle n'est pas brûlée, elle dégringole. Alors il y a une complicité entre le feu et l'air, je suis d'accord, il y a une complicité. Très curieux, je reste. Mais c'est quand même le feu qui donne cette attraction vers le haut. Alors qu'est-ce que c'est que le feu? Mais c'est pas un vivant. Et c'est pour ça que les anciens disaient que le feu est divin. Parce qu'il est victorieux de cette pesanteur de la matière. Et pourtant le feu n'est pas spirituel. Mais on comprend qu'Héraclite dit qu'il y a un feu visible et un feu invisible. C'est intéressant de regarder l'élément feu. C'est quand même très curieux, l'élément feu. Bon, alors, voyez, la nature est un principe immanent qui fait que le mouvement naturel est un mouvement qui vient de l'intérieur. Alors que le mouvement qui vient de l'extérieur est violent, toujours une certaine violence est artificielle. Le mouvement extrinsèque, matière artificielle, ne va pas toujours dans le sens de la nature. Il peut coopérer avec la nature. Et il peut très bien ne pas coopérer. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement qui relève de l'art. Pourquoi la modalité du principe de finalité, tout être mobile est ordonné au mouvement, peut-elle s'exprimer aussi tout ce qui est mu par un autre? Oui, tout être mobile est ordonné au mouvement. Tout être mobile, je dirais tout être mobile, en tant qu'il est mobile, est ordonné au mouvement parce que il est en puissance à être mu. Et le mouvement actue l'être mobile. Il est l'acte de l'être mobile. Donc je suis d'accord que le corps mobile est capable d'être mu. Le mouvement l'actue. Mais comment est-il actué? Il est actué par un autre. Et donc, tout ce qui est mu par un autre. Là, on touche ce que c'est que la nature. On va essayer de comprendre ça. ce n'est l'immanence du principe. Qu'est-ce qui distingue le mouvement naturel du mouvement vital? Très bien. On va essayer de comprendre maintenant le mouvement naturel. Vous le distinguez du mouvement artificiel et du mouvement vital. Le mouvement vital est naturel. Le mouvement artificiel n'est pas naturel. Et le mouvement artificiel n'est pas vital. Mais le mouvement vital est naturel. Il est naturel pour moi de marcher. Il est naturel pour moi de me mouvoir. Je vais donner toujours l'exemple. Je monte l'escalier. Je rate une marche et je dégringole. Je passe du mouvement vital au mouvement naturel. Il est naturel pour mon corps de dégringoler l'escalier et de rouler comme un petit tonneau. Un petit tonneau carré. Et si je suis grosse, ça fait petit tonneau. Oui, plus facilement. Donc, on voit bien la différence entre le mouvement vital et le mouvement naturel. Le mouvement naturel n'est pas en opposition au mouvement vital. C'est ça qui est très très intéressant. Vous voyez? Et c'est pour ça que je peux dire que le feu se meut. Parce que ce n'est pas contraire au mouvement vital. Mais je préciserai la différence du sémovere vital et du sémovere naturel. Le sémovere vital fait que ce qui est extérieur devient intérieur, l'assimilation. Vous voyez ? C'est pour ça qu'au sens strict, dire que le vivant c'est celui qui se meut n'est pas tout à fait propre. Le vivant c'est celui qui assimile. Voilà la caractéristique du vivant. Il assimile. Tandis que le feu, est-ce qu'il assimile? Il détruit. Mais il y a quelque chose qui semble une assimilation. Parce que le feu grandit quand vous donnez du bois. Et il grandit. Demandez ça à un biologiste une fois pour savoir dans quelle mesure, au point de vue, les choses Aristote demandent d'être purifiées par la philosophie de la science. J'ai dit, est-ce que pour vous, en tant que biologiste, qu'est-ce qui caractérise le vivant? Alors il m'a dit, c'est l'assimilation. C'est pas le sémovere, c'est l'assimilation. L'assimilation implique un sémovere. Mais vous voyez, c'est celui qui se meut en assimilant. Alors ça, c'est vraiment le vivant. Oui.
Alors donc, ce qui caractérise le vivant, ça se passe pas au niveau du mouvement.
C'est
ce qui caractérise le mouvement, le vivant, c'est pas au niveau du mouvement. Là.
C'est plus que ça. C'est le mouvement. C'est un mouvement qui assimile, qui fait qu'une forme extérieure devient et transformé à la forme d'assimilation.
Quand vous dites que l'opération vitale est acte de...
est immanente. Vous voyez ? L'opération vitale est premièrement immanente. Et elle assimile. Alors vous pouvez très bien dire que le vivant se meut, c'est courant, on peut très bien dire ça. Mais il faut tout de suite préciser. C'est pas n'importe quel mouvement. Parce que ça caractérise... Alors le mouvement local... Hein ? Je me meus, mais je me meus d'un lieu à l'autre et je n'assimile pas le lieu auquel je suis. Oui. Et c'est pour ça que le mouvement local, s'il présuppose un mouvement d'assimilation, est vital. Mais le mouvement local n'est pas immédiatement vital. Oui. Se meut, il change de lieu. Et il n'assimile pas, au sens strict. Alors, on va maintenant essayer de comprendre. Donc, distinguez bien les trois. Alors, le mouvement vital est un mouvement qui, c'est très juste de dire, je suis tout à fait d'accord, que le vivant se meut. En assimilant. Et c'est l'assimilation qui caractérise le vivant. Et je crois que la science biologique ne dit pas plus. C'est l'assimilation qui caractérise le vivant. Le vivant est celui qui récupère. Vous voyez, la matière, l'entropie, fait qu'on perd d'énergie. Et le vivant regagne son énergie. Il est toujours victorieux, le vivant. Parce qu'il assimile. Quelque chose qui est extérieur à lui devient intrinsèque. Tandis qu'au contraire, celui qui n'assimile pas dégringole. Pas tout le temps. Et c'est le propre de la nature comme telle. La nature comme telle, elle se dégrade. C'est dans ce sens-là que on dit le monde a une fin. Le monde physique a une fin. Parce qu'il se dégrade. Très lentement, mais il se dégrade. Tandis que le vivant, c'était ce que les anciens avaient tout de suite, cette vision du vivant, c'est que grâce à la procréation, grâce à la génération, le vivant renaît tout le temps. Un grain de blé, 100 grains de blé. Et les épis égyptiens étaient beaucoup plus grands que nos épis actuels. Il y a une dégradation. C'est pas une évolution, c'est une dégradation. Pour des tas de raisons. À cause de l'élément artificiel qui dégrade à la place d'être vraiment quelque chose qui permet de coopérer, on désagrège l'intervention de l'homme. Qui dégrade la nature. Ça, c'est très souvent comme ça. C'est très rare que l'homme ennoblit la nature. Dans les œuvres d'art, il ennoblit. Mais vous voyez, il ennoblit au point de vue formel, du côté de la figura. Mais il ennoblit pas du tout du côté de ce qu'est la nature. C'est plutôt l'inverse. Quand l'homme n'est pas là, la nature pousse avec une espèce de hardiesse et de forêt vierge. Et c'est ça qui exprime une forêt qui n'est pas manipulée par les hommes. Cela est vrai au point de vue de la vie végétative, cela est vrai vis-à-vis de la nature aussi. Alors, on va maintenant essayer de comprendre, puisque on a vu l'induction de la nature forme et de la nature matière. Et à partir de là, l'induction de la nature fin. Oui, la première découverte de la nature, c'est d'être principe propre d'un mouvement immanent. Puis, ce mouvement immanent est déterminé et qualitatif, nature-forme. Et ce mouvement immanent est matériel. Alors, je peux préciser à ce moment-là que la nature est fondamentale par rapport à l'activité artistique. Tout mouvement artistique présuppose la nature. Et donc, la nature, génétiquement, est antérieure à l'art. Mais la connaissance de la nature se fait par l'art. Donc, il faut bien distinguer les deux aspects. Vous voyez, et c'est toute la différence qu'il y a entre la philosophie de la nature et la science physique. À la place de l'art, c'est les mathématiques. La science physique présuppose les mathématiques. La philosophie de la nature présuppose l'art. C'est très curieux. Et c'est par là qu'on pourrait préciser davantage les rapports entre la philosophie et la physique moderne. Mais ça serait de la critique. comment se présente à moi le monde naturel, le comment. Comment existe-t-il? Comment la nature existe-t-elle? Et je cherche ce qu'il y a de tout à fait premier dans ce comment. Et ce qu'il y a de tout à fait premier dans ce comment me mettra en présence de ce qu'on appellera les éléments. Les quatre éléments. Empédocle, le premier qui décerne ces quatre racines du monde physique, il les appelle les racines. Enfin, ce sont les éléments. Alors qu'est-ce que c'est qu'un élément? Puisque la question est posée, qu'est-ce que c'est qu'un élément? C'est la manière d'être de la nature, du monde physique, dans ce qu'elle a de tout à fait premier. L'élément est principe. Chercher l'élément, c'est chercher le principe du comment tu poses. manière dont je capte la réalité. Alors, on va regarder les cinq éléments. On va se demander s'il y a un parallélisme avec les cinq praticables. Toujours pour mieux connaître, ces analogies aident à mieux connaître. Mais voyez, les analogies ne peuvent se faire que quand j'ai étudié la chose en soi. Si je n'étudie pas la chose en soi, l'analogie devient trompeuse. Mais quand j'ai étudié les choses en soi, la critique aboutit aux cinq prédicables. C'est tout à fait le fondement de ma vie intellectuelle. Mon filet implique cinq manières de saisir la réalité, fondamentalement. Genre, différents spécifiques, espèces, propres, accident. Alors ici, je recherche quels sont les prédicats, quels sont les éléments de notre monde physique, irréductibles, les éléments. Le monde physique, je le connais à travers les qualités sensibles. Alors, il y a deux manières de connaître les éléments. Par le mouvement. Par les qualités propres. Par le mouvement, c'est très facile. Il y a un mouvement vers le haut. Un mouvement vers le bas. Il y a deux mouvements qui sont contraires. Le mouvement vers le haut, le feu. Le mouvement vers le bas, la terre. Puis deux mouvements intermédiaires, l'air.
Les qualités du toucher.